demandez si je suis philosophe, alors je vous répondrai que si je veux être philosophe, il faut bien que je prenne conscience du fait que je ne suis pas philosophe. On n'est pas philosophe comme ça. La philosophie, c'est une activité. C'est une activité qui est diverse, qui est polymorphe. C'est une activité qui, à un moment donné, avait son style très particulier, avait ses objets très particuliers. Je crois maintenant que le discours philosophique a perdu ce style, qu'il a perdu ce domaine particulier, le monde d'objets qui lui était familier, qui était les siens, et que maintenant, si vous voulez, la philosophie se perd dans sa spécificité et elle réapparaîtra un jour. Elle est peut-être en train de réapparaître dans un langage que nous ne soupçonnons pas encore. Au fond, le propre de la philosophie, c'est qu'elle ne sait jamais au juste ce qui est le jour et ce qui est la nuit.
Orchan, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchan, ce soir, cinquième et dernière émission consacrée à Michel Foucault, en présence de Frédéric Gros, Daniel Defer, mais tout de suite Patrick Boucheron. Depuis le début de cette semaine, Patrick Boucheron, nous avons tenté, en écoutant la voix de Michel Foucault et en faisant venir à la fois des intellectuels, des praticiens de différentes disciplines, que ça soit le droit, la justice, la sexualité, la politique, etc., de comprendre quels étaient les enjeux intellectuels et théoriques de Foucault aujourd'hui, mais aussi de Foucault demain, en interrogeant plusieurs générations de chercheurs. En début de chaque émission, nous vous avons proposé la même archive où nous entendons la voix de Foucault dire que il n'est pas un philosophe et pourtant, plus de 40 ans après, il surplombe la philosophie avec une espèce d'encouragement à poursuivre dans ce que la philosophie a d'énigmatique et de recherche. Que représente pour vous Michel Foucault ?
Un encouragement.
Vous qui êtes amené à lui succéder. Et on verra si on succède d'ailleurs à Michel Foucault au Collège de France.
Ah non, certainement pas, parce que moi je ne suis qu'historien. Mais justement, ce qu'on a entendu de Michel Foucault montre bien que l'idée qu'il se faisait de la philosophie, qui en imposait aux autres sciences humaines de son temps, est plus accueillante et que d'une certaine manière, on peut être de plein de façons foucaldien. C'est une extension du domaine, au fond, de la lutte, oui, parce que c'en était une, de lutte foucaldienne, dont votre semaine a témoigné à travers les générations et à travers les disciplines. Puisqu'il nous aide, au fond, à faire des liens entre les générations et les disciplines.
Ça veut dire quoi, être foucaldien ?
Je sais pas ce que ça veut dire qu'être foucaldien. Il y a deux manières, sans doute. On peut l'être strictement. On peut l'être de manière fervente et fiévreuse. Et alors, on l'est de différentes manières selon les générations. Mais en tant qu'historien, et ça, on pourra en parler peut-être. Mais en tant qu'historien, je crois vrai ce que Paul Veyne a dit, de Michel Foucault, qu'il a révolutionné l'histoire. Ça veut dire que, on se dise foucaldien ou pas, qu'on utilise les mots ou qu'on ne pense pas à le faire, peu importe, il a révolutionné l'histoire. Et donc, d'une certaine manière, au fond, cette idée d'être ou de ne pas être foucaldien perd de son sens dès lors qu'on comprend l'importance, au fond, profuse, diverse de cette pensée.
Nous allons écouter la voix de Paul Veyne que vous venez d'évoquer. Paul Veyne qui était son ami depuis Normale Sup. Paul Veyne qui, je pense, a eu une influence certaine sur la pensée de Michel Foucault, ne serait-ce que dans l'appétence à lire certains textes de l'Antiquité. Paul Veyne, une archive France 2, 26 mai 1998.
La différence de stature intellectuelle était telle que je savais que, il suffisait de parler d'une chose, il m'a beaucoup apporté, il suffisait d'aborder un sujet sur lequel j'avais des difficultés ou autre, immédiatement l'envol d'aigle fonctionnait, Foucault expliquait, voyez, il y avait d'abord la supériorité d'esprit du philosophe de métier et le formidable entraînement à l'abstraction qu'est l'habituation à la philosophie, puis il y avait des capacités intellectuelles qui dépassaient de loin les miennes. Je le dis sans aucune fausse honte.
En même temps, bon d'ailleurs il y a un livre de Michel Foucault là, qui s'appelle « Dit et écrit » 1954-1988, mais on a l'impression que chez lui aussi, il y a peut-être un peu de Paul Veyne et que ce questionnement incessant sur la vérité, légende, mythe, a aussi, à la fin de son œuvre,
beaucoup était inscrit dans ces interrogations.
C'est-à-dire, il faisait de l'histoire et il
remettait en cause l'histoire.
Et il avait le problème nietzschéen. Qu'est-ce que dire vrai ? Alors, fatalement, je dirais même qu'on a appartenu à une génération ou à une fraction de génération où le problème nietzschéen de la vérité était le problème central, ou le problème de l'historisme, si vous voulez. C'est un problème que tout le monde a vécu. Les gens, certains ne veulent pas le savoir, mais si la vérité, ça existe, se cache l'existence de ce problème, qui est que nous ne savons pas ce que demain on dira, non pas de nos erreurs, parce que tout le monde se trompe, mais des principes mêmes dont nous vivons. Ça, ils ne veulent pas le savoir, ils ne veulent pas se sentir emportés par le flot du temps. Mais ceux qui se posent la question ont cette espèce d'anxiété devant le gouffre de la vérité qui sans arrêt recule. Et Foucault vivait dans cette atmosphère de l'angoisse nietzschéenne devant la vérité.
Nous venons d'entendre la voix de Paul Venn, qui a d'ailleurs consacré un très beau livre à Michel Foucault, sur ce dire vrai, sur ce concept de vérité, qui était d'ailleurs la thématique de son dernier séminaire. Qu'en dire aujourd'hui et quelles sont les leçons, si jamais il y a des leçons à tirer, de l'œuvre protéiforme de Michel Foucault, Patrick Boucheron?
C'est vrai que Paul Venn a fait de Foucault le portrait d'un sceptique. Et c'était très important quand, justement, cette ferveur dont on parlait tout à l'heure risquait de se figer en dévotion. Et lorsque certains pouvaient penser à tort qu'il y avait une doctrine de Michel Foucault, lui qui a toujours, au contraire, pensé que penser, c'était justement penser contre soi-même. Et donc, ce scepticisme de Foucault, évidemment, il vise au cœur la vérité. C'est pour ça que, voilà, les Foucaldiens se repassent l'article Nietzsche, la généalogie, l'histoire, comme véritablement leur mot de passe. Mais de ce point de vue-là, Venn a raison. Au fond, en tant qu'historien, puisque là, il parlait en tant qu'historien, la vérité n'est pas le problème de l'historien. L'historien travaille sur ce qui, à un moment donné, a été tenu pour vrai. Alors, Foucault lui-même pouvait laisser à penser certains de ses lecteurs qu'il travaillait à une histoire de la vérité. En réalité, lui-même était un philosophe qui, d'une certaine façon, était réaliste. C'est-à-dire pensait que une proposition était vraie pour des raisons qui n'étaient pas simplement internes à la proposition, mais qui visaient une vérité propre. Enfin, il pouvait être d'une certaine manière réaliste, même si par certains côtés, il mettait une ambiguïté sur le fait que ce qu'il appelait des régimes de vérité, était-ce la vérité des philosophes ou était-ce ce qui est tenu pour vrai pour les historiens ? Il y a là une difficulté. D'ailleurs, Jacques Bouvresse, tout récemment, vient de tenter d'armer Nietzsche contre Foucault pour montrer qu'il y a là une ambiguïté dans l'œuvre de Foucault. Et je pense que c'est ce qui fait aussi sa séduction presque spectaculaire. C'est-à-dire que chacun peut y prendre un peu ce qu'il veut. Et d'une certaine manière, du point de vue, je crois, de ceux qui croyaient que Foucault détruisait véritablement comme une idole la vérité philosophique, le meilleur démenti, c'est, comme vous le dites, le dernier cours au Collège de France sur le courage de la vérité, qui la place dans une posture, je dirais, à la fois sceptique et héroïque, le philosophe en quête de la vérité.
Nous allons l'écouter. Il va évoquer l'acte du dire vrai ou comment replacer les pratiques du dire vrai dans leur contexte. C'est une archive du dernier cours au Collège de France, le 1er février 1984.
Je crois que ces formes de pratiques du dire vrai sur soi-même, on peut, ou il y a une certaine tendance qui consiste à les analyser en les rapportant en quelque sorte à un axe central qui est, et c'est tout à fait légitime, cet axe central, c'est bien entendu le principe socratique du « connais-toi toi-même ». Et on peut y voir l'illustration, la mise en œuvre, l'exemplification concrète du principe gnotis et auton. Mais je crois qu'on peut aussi, et qu'il serait intéressant de replacer ces pratiques du dire vrai sur soi-même, cette obligation du dire vrai, cette incitation du dire vrai sur soi-même, il me semble qu'il serait intéressant de la replacer aussi dans un contexte plus large qui est défini par un principe dont le gnotis et auton n'est lui-même qu'une application, et ce principe, c'est le principe de l'épiméléia et autou, du souci de soi, de l'application à soi-même.
Alors, le souci de soi, comment expliquer la trajectoire de Michel Foucault dans ces derniers mois? La parole que nous venons d'entendre a été justement une des dernières paroles prononcées par Michel Foucault au Collège de France.
On est en février.
On est cinq mois avant sa mort.
Voilà, ouais. Il meurt le 25 juin. Oui, on dit généralement qu'il y a deux Foucault, au moins deux. L'un qui peut-être culmine avec Surveiller et punir et qui est l'historien ou le philosophe des dispositifs de pouvoir, et l'autre qui va culminer mais dans ce sommet inachevé qu'est l'histoire de la sexualité, le souci de soi. Et en réalité, Judith Revel a montré assez récemment, en faisant un détour vers Merleau-Ponty, ce qui est aussi intéressant parce que ça amène Foucault dans une autre histoire de la philosophie française des années 50, que ces deux chantiers, les dispositifs de pouvoir et le souci de soi, en fait se nouaient. Et je crois que ces derniers moments, où il sait probablement qu'il s'agit des derniers cours qu'il prononce, tentent presque mystérieusement, hein, pour nous, de tracer une ligne de fuite. Je dis mystérieusement parce qu'il y a la toute fin des cours de Michel Foucault, même les passages qu'il n'a pas lus et qui ont été tout récemment édités. Je dis tout récemment parce que c'est extraordinaire quand même, cette œuvre qui s'amplifie.
Qui continue à exister comme si elle était atemporelle.
Et voilà. Et c'est cela.
Et qui reste toujours aussi intempestif.
Aussi intempestive, et on attend le dernier livre de Michel Foucault, ce qui, tout de même, 30 ans après sa mort, est un exploit formidable. Et donc, bien sûr que les cours de Michel Foucault au Collège de France, dont on vient d'achever l'édition, font non seulement multiplient par deux son œuvre complète, ce qui est absolument extraordinaire, mais en même temps...
C'est-à-dire que, oui, pour parler très concrètement, depuis qu'il est mort... Il y a le double des textes qui ont été publiés.
Oui,
donc c'est très rare dans l'histoire intellectuelle de voir une postérité qui continue à être aussi active.
Une œuvre posthume, d'une certaine manière, qui double l'œuvre enthume. C'est-à-dire que, au fond, ça veut dire aussi que il y a des effets de génération. C'est-à-dire que certains vont...
Vous êtes trop jeune pour avoir suivi les séminaires de Foucault au Collège
de
France.
Oui, puisque moi j'avais 20 ans. Donc, en fait, pour moi, Foucault était l'homme des livres. Donc, pour moi, c'était Surveiller et punir. Pour des plus jeunes que moi, ils vont rentrer dans Foucault à travers les 10 et écrits qui, d'une certaine manière, créent, et c'est ça qui est extraordinaire, au fond, dans les 10 et écrits...
Un rapport beaucoup plus personnel
beaucoup
avec...
Beaucoup plus personnel, beaucoup plus tortueux.
L'écrivain, oui.
Oui, le style, comme il le dit lui-même, et le style, il faut le comprendre comme le fils du chirurgien qu'il était pouvait user du stylet. C'est-à-dire, pour lui, le style, c'est vraiment ce qui permet d'inciser, d'entailler... jusqu'au cœur vénéneux des choses, écrivait-il, les problèmes. Et autant il y a quelque chose de majestueux, d'ample, de classique dans la langue, dans les livres, et ça c'était, je dirais, le Foucault de ma génération, la génération d'après a connu ce Foucault qui, au fond, tentait de d'échapper à ses livres pour aller vers d'autres, et c'est les 10 et écrits. Et puis, je dirais que toute une série, alors en l'occurrence d'historiens, ont appris leur Foucault dans les années 2000 avec la parution de ses cours au Collège de France. Et en particulier Le Courage de la Vérité, qui est, je dirais, je pense, le dernier coup de théâtre. C'est-à-dire le moment où on se rend compte que Foucault, je parlais d'héroïsme, il y a quand même une forme de courage à sortir de sa bibliothèque et à rentrer dans une autre. Tant qu'il était dans l'âge classique, tant qu'il travaillait à partir de Descartes, Nietzsche, Heidegger, Kant, évidemment, il est dans sa culture scolaire. Lorsqu'il s'intéresse aux Grecs, d'une certaine manière, il ne quitte pas non plus la bibliothèque d'un philosophe normalien qui a fait ses études, comme il se doit, dans les années 50. Mais lorsqu'il va lire les Pères de l'Église, qui le guide ? Paul Veyne, sans doute, Pierre Hadot, mais là, il plonge, il verse dans quelque chose qui est proprement aventureux. Et d'une certaine manière, ce qu'il y allait chercher, ce souci de soi, ces usages du plaisir, c'est tout cela, ça crée un ultime rebond dans lequel nous sommes encore. Voilà, c'est-à-dire que la pensée demeure inachevée. Il ne faut jamais oublier qu'il est mort à 57 ans. Demeure inachevée et nous sommes dans l'effet de souffle de cet inachèvement.
Nous allons l'écouter à propos de la notion de phénoménologie. C'était une conférence à l'Université catholique de Louvain en 1981.
On pouvait rester un petit peu insatisfait dans la mesure où le concret auquel se référait la phénoménologie, ce concret était, comment dire, un petit peu académique et universitaire. Vous aviez des objets privilégiés de la description phénoménologique qui était ou l'expérience vécue ou la perception d'un arbre à travers la fenêtre du bureau. Enfin, je suis un peu sévère, mais le champ d'objets que la phénoménologie parcourait était, je dirais, un peu prédéterminé par une tradition philosophique et universitaire qu'il valait peut-être la peine un petit peu d'ouvrir. Deuxièmement, autre forme de pensée dominante, importante, c'est évidemment le marxisme, qui lui se référait à tout un domaine d'analyse historique sur lequel, en un sens, il faisait l'impasse. C'est-à-dire, autant la lecture des textes de Marx, l'analyse des concepts de Marx était une tâche importante, autant les contenus historiques, le savoir historique auquel ces concepts devaient se rapporter, pour lesquels il devait être opératoire, ces domaines historiques étaient un petit peu laissés pour compte, ou en tout cas le marxisme, enfin, une histoire marxiste concrète n'était pas en France du moins très développée. Puis il y avait un troisième courant qui était en France très spécialement développé, qui était l'histoire des sciences, avec des gens comme Bachelard, Canguilhem, etc., Cavaillès à Panguet, et qui était le problème de savoir est-ce qu'il y a une historicité de la raison et est-ce qu'on peut faire l'histoire de la vérité. Bon, si vous voulez, moi je dirais que je me suis situé un peu au croisement de ces différents courants et de ces différents problèmes, en me posant par rapport à la phénoménologie la question de savoir, mais est-ce que, plutôt que de faire la description un peu intériorisée de l'expérience vécue, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'on ne peut pas faire l'expérience d'un certain, l'analyse d'un certain nombre d'expériences collectives et sociales.
Archive intéressante, Patrick Boucheron, parce que là, on voit bien ce qui l'intéresse dans les corpus dans lesquels il va essayer de tirer la substantifique moelle pour pouvoir théoriser. Il a très peu parlé de lui, même si on reviendra sur le dernier séminaire, est-ce qu'à travers la mort de Socrate, il ne parlait pas aussi de l'horizon possible de sa propre mort ? Certains ont pu le dire. Comment vous le resituez dans le climat intellectuel de l'époque ? Comment a-t-il pris du surplomb et a-t-il été accueilli ? Parce que c'est quelqu'un qui a été accueilli comme un prince de la pensée.
Oui.
Comme quelqu'un qu'on n'attendait plus, comme s'il était nécessaire à la vie intellectuelle et à la vie tout court, à la pratique de la vie quotidienne, même si à la fin, peut-être, il était peut-être moins le prince qu'il a été dans les années précédentes. Pourquoi et comment ?
Il a été accueilli, comme vous dites, différemment, de part et d'autre de l'Atlantique, par exemple. Jacques Bouvresse, on en parlait, dit bien, mais après Vincent Descombes, qu'il y a un Foucault américain et un Foucault français. Il a toujours tenté de déjouer les croyants ou les dévots. Il a cherché à fuir. Il faut jamais oublier que pour nous, c'est un auteur. Un grand auteur.
Il est
auteur.
Dans aucune case. Il dit qu'il n'est pas philosophe, il dit qu'il n'est pas historien. Il dit qu'il n'est pas sociologue, il dit qu'il n'est pas structuraliste, il dit qu'il n'est pas phénoménologue. Alors qu'est-ce qu'il est ?
Il ne cesse au fond d'échapper.
Pas marxiste non plus, évidemment.
Évidemment.
Pas freudien.
Et il cherche même à ne pas être Michel Foucault, puisque pendant un certain nombre, au moment de après son élection au Collège de France, en 1970, au fond, je crois que son ambition, c'est de ne plus écrire de livres. Ou s'il en écrit, de ne plus apposer son nom propre sur ses livres Et d'ailleurs, ensuite, après, évidemment, la notoriété le reprend, puisqu'on est en train de republier Herculine Barbin, etc., tous les textes qu'il avait fait circuler, La vie des hommes infâmes, etc., qu'il avait fait circuler, qu'il espérait faire circuler anonymement. Mais évidemment, parce que au fond, il cherchait...
D'ailleurs, c'était pas des textes de lui, c'est des textes qu'il a exhumés.
Qu'il a exhumés et qu'il présentait par MF. Et puis alors, évidemment, on le reconnaissait. Il y a aussi cette... je crois que c'est en 1980, c'est quelques semaines avant la mort de Sartre, il fait au Monde une interview qui s'appelle « Le philosophe masqué », où il essaye de garder l'anonymat en disant « Mais au fond, lorsque j'étais moins connu, j'étais mieux entendu parce que je disais des choses qui n'étaient pas rapportées à mon nom propre et à ma notoriété. » Et dans cette interview, cette fausse interview qu'est « Le philosophe masqué », extraordinaire texte, je trouve, c'est une réflexion profonde sur ce que peut un intellectuel aujourd'hui et ce à quoi il doit échapper, effet de notoriété, effet de nomination, justement, pour dire le vrai, pour continuer à avoir le courage de la vérité. Alors, c'est difficile de répondre à votre question « Comment a-t-il été accueilli ?» parce que, d'une certaine manière, on voit bien qu'il n'a jamais cessé, de fuir. Enfin, de trouver des formes très dignes, d'ailleurs, et très esthétiques, de fuite, face, pas seulement à la notoriété, ça c'est absurde, mais à l'assignation. C'est-à-dire qu'au fond, on est assigné à son nom propre, comme on peut être assigné à résidence. Et lui, il voulait prendre des lignes de fuite partout, tout le temps.
En quoi votre pratique d'historien s'alimente-t-elle de la lecture de certains textes de Michel Foucault, et lesquels ?
Écoutez, j'ai cité « Surveiller et punir », mais l'honnêteté m'oblige à dire que je lisais « Surveiller et punir » en même temps que un texte collectif que Michel Perrault avait publié, qui s'appelait « L'impossible prison », qui est, je trouve, une magnifique entreprise collective qui dit à la fois l'intérêt et l'embarras des historiens face à Foucault. C'est pas seulement contrairement à ce qu'on peut croire qu'il allait planter sa prose philosophique dans le jardin des historiens et que ça les gênait. C'est même pas seulement parce qu'il lui reprochait telle ou telle approximation ou qu'il ne comprenait pas très bien que lorsqu'il parlait de grand renfermement, ça pouvait être moins un moment qu'un paradigme. C'est parce que, de fait, et Paul Veyne le dit, et Michel Foucault lui-même le disait dans l'archive qu'on a entendu au début de l'émission, sa philosophie pose un problème à l'histoire. En ceci que, d'abord, elle fait de l'histoire sa propre philosophie, en n'étant ni philosophe ni historien.
Et pourtant, est-ce qu'il y a véritablement une philosophie de l'histoire à l'intérieur de l'œuvre de Michel Foucault ?
Oui, je pense qu'il y a une philosophie de l'histoire qui est celle, fondamentalement, de la discontinuité. Voilà, c'est cela que les historiens reconnaissent, qu'ils accueillent, qu'ils le veulent ou non, c'est en cela qu'ils sont foucaldiens, même s'ils ne le savent pas, c'est en cela que Michel Foucault a révolutionné l'histoire. C'est pas parce que on peut parler des dispositifs de pouvoir ou des archives ou de l'épistémé, c'est fondamentalement parce que Michel Foucault a mis dans le petit lopin des continuités un très grand désordre que, au fond, plus personne ne pourra remettre en ordre. Voilà, c'est fait. Il a révolutionné l'histoire parce qu'on a compris fondamentalement avec lui ou contre lui ou après lui ou malgré lui, mais d'une certaine manière après Foucault, on a compris, on ne peut pas ne pas comprendre que l'histoire, c'est l'art des discontinuités et des problématisations. C'est-à-dire, c'est se poser la question à chaque moment pour...
C'est pas l'art de la restitution d'une soi-disant vérité.
Voilà. Ni d'une vérité, ni d'une continuité, ni d'un récit lisse, mais pour chaque moment et pour chaque groupe, poser la question, c'est quoi le problème ? Foucaldiser les problèmes, c'est d'une certaine manière entailler, au fond, l'histoire et y trouver un écart, une discontinuité. Pardon, ça peut paraître théorique ou poétique, mais c'est très concret. C'est-à-dire qu'au fond, on voit très bien qu'aujourd'hui, même un historien, si vous voulez, qui veut travailler, par exemple, sur les dispositifs sur la prison, d'une certaine manière, il travaille plus sur des institutions, il travaille sur des dispositifs. Lorsqu'il manie des archives, au fond, ce sont des énoncés qu'il agence. Et tout cela, c'est Foucault. Foucault et les historiens. Et c'est ça qu'il faut dire, parce que évidemment, les historiens qui ont pu protester ou râler face à Foucault, notamment dans ce volume L'impossible prison, ils ont le mauvais rôle aujourd'hui. On dit ce sont ceux qui étaient les gardiens du dogme positiviste. Mais c'est pas vrai. Il y avait aussi, c'était normal d'être dérangé. C'est éminemment dérangeant. Et puis il faut dire aussi qu'il y a chez Foucault quelque chose comme le Didier Ribon l'a dit, infréquentable, inassimilable. Il y a un Foucault qui est proprement un anarchiste de la raison, qui n'est pas assimilable dans une discipline comme l'histoire, qui en impose à l'histoire, mais qui ne peut pas être récupéré par l'histoire. Et cette part irrécupérable de Foucault, moi, m'intéresse beaucoup aussi. D'abord, je la trouve très belle. Et quand on lit les choses, quand on revient à ce Foucault des livres, que sa mise en Pléiade, d'une certaine manière, rend disponible, on se rend compte que, par exemple, il n'y a pas un style de Foucault. Il y en a plusieurs. Il a eu plusieurs écritures au moment où il veut s'effacer, au moment où il pense qu'au fond, il n'écrira plus de livres, où il écrit quelques articles dans Critique. Il adopte cette forme blanche d'une sorte de fadeur comme ça, très très retenue, qui contraste incroyablement avec l'exubérance somptueuse de ses premiers écrits. Et puis il en aura d'autres encore. Et au fond, c'est cet art du mouvement.
Vous avez parlé de stylet tout à l'heure pour faire référence à son style.
Oui.
Et de stylet scalpel pour faire référence à son père qui était chirurgien. Il y a aussi, quand on relit certains textes de Foucault, une écriture caméra presse. Je pense là au début des mots et des choses. C'est une écriture qui provoque un intense plaisir à le lire et à le relire.
Et je pense que de ce plaisir, Foucault lui-même se méfiait. C'est-à-dire que la seule fois, à ma connaissance, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un foucaldologue, mais à ma connaissance, la seule fois où il a explicité le rapport qu'il entretenait avec le langage et avec son père chirurgien, mais c'était la même chose, puisque d'une certaine manière, être le fils d'un médecin, c'est être le fils d'une parole qui désigne et qui doit désigner exactement, qui doit poser un mot sur un mal. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui marque. En tout cas, c'est ce que Foucault disait. Dans ce texte qui a été réédité sous le nom « Le beau danger », il s'inquiétait. Il se demandait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été réédité bien plus tard, parce que c'était un entretien qu'il n'avait pas voulu voir publié, parce que il y avouait quelque chose d'inavouable pour un philosophe qui restait quand même, il l'a dit, dans la lignée de Canguilhem, c'est-à-dire dans une lignée rationaliste. Ce qui était inavouable, c'est que la séduction, la spectaculaire séduction que sa prose entraînante suscite chez le lecteur, n'est-elle pas de nature stylistique et littéraire? S'il l'avoue, alors il s'affaiblit. Et il ne veut pas s'affaiblir.
S'affaiblit intellectuellement et théoriquement.
Et théoriquement. Et peut-être politiquement aussi. Il ne veut pas s'affaiblir. Il ne veut pas paraître pour ce que, aux États-Unis, on commence à construire un beau phraseur, un philosophe français. Il ne veut pas. Parce qu'il a des choses à défendre, y compris dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très, je trouve très touchant, c'est-à-dire la manière dont Foucault s'est constamment méfié de ces prodigieuses facilités. Parce que, quand même, il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire que vous citiez la conférence de Louvain, on continue évidemment à retrouver, à transcrire des conférences, etc., et plus la bibliothèque se densifie, plus se pose pour le biographe un problème. Mais c'est-à-dire, comment il faisait? Enfin, il y a un moment où, si on met bout à bout l'ensemble de ses interventions, de ses écrits, il y a quand même une productivité prodigieuse, oui. Et donc, de cette inventivité, évidemment, il devait aussi se méfier.
Vous qui êtes rentré au Collège de France en décembre dernier, qui avez prononcé une leçon inaugurale qui nous a tous marqués, qui s'intitule « Ce que peut l'histoire », J'imagine que vous avez relu, pour préparer ce discours, le discours inaugural de Michel Foucault au Collège de France.
Oui, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, parce que là, proprement, c'est vraiment inatteignable. Voilà. C'est-à-dire que là, il est à son intensité maximale, et si vous voulez laisser terrasser par la timidité ou par le sentiment d'imposture en pareille situation, alors effectivement, relire du Michel Foucault, c'est la meilleure chose à faire. Mais vous savez, je vais vous dire, peut-être ça s'entend, face à Michel Foucault, j'essaye de réfléchir, j'essaye de lire aussi des choses. On citait Bouveret, ce qui est très drôle, très ironique contre Foucault. Moi, j'aime ça. Après tout, il faut casser les dévotions. Mais je ne cache pas que je suis face à lui un peu comme une midinette. Je veux dire que je me fredonne les airs. Voilà. Je me suis rendu compte qu'avant de...
Il y a des refrains, Foucault, alors ?
Il y a une ritournelle, comme disait Deleuze. C'est-à-dire que c'est peut-être le rythme qui nous enchante le plus. Et au fond, quand je dois me mettre à écrire un livre un peu long, je relis du Foucault parce que ça me met dans la cadence. Simplement pour ça, se mettre dans la cadence. C'est pour ça que je dis que l'air compte peut-être autant que les paroles, si on est une midinette qui aime bien chantonner des refrains. Donc ça paraît bien, bien futile ce que je dis là. Mais au fond, ça veut dire que le rythme de la pensée, au-delà effectivement du travail scientifique qu'on peut faire sur les concepts, eh bien, au fond, ça a été la bande-son de la vie intellectuelle française. Voilà. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, elle est insurpassable. Parce qu'on voit bien qu'il y a là une ressource d'énergie, de radicalité, sans doute, mais d'une radicalité qui ne surjouait pas la radicalité politique, qui était une radicalité proprement philosophique, qui n'avait pas besoin de prendre des grands airs, et qui, évidemment, doit, selon l'humeur, nous décourager, en nous disant que décidément nous vivons une époque bien piètre, ou au contraire nous encourager.
Alors, certains vous ont comparé à Michel Foucault après la prononciation de votre discours, de votre leçon inaugurale, pour deux raisons. Parce que vous êtes dans la même approche de l'interrogation du statut de la vérité dans votre pratique historique. Et parce que aussi, ce n'est pas parce que vous êtes un grand savant que vous avez pour autant abandonné l'idée de ne pas parler du présent, comme le faisait Michel Foucault. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait en décembre, rappelant les événements tragiques du 13 novembre. Est-ce que cette double acception du statut de l'intellectuel, elle vous paraît nécessaire aujourd'hui en ces temps très complexes ?
Oui, sans évidemment chercher à se comparer, ce qui est absurde, on peut juste dire calmement qu'on vient après lui et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte, et que ce qu'il y a après Foucault, c'est à mon avis ce que vous dites très justement, une position d'intellectuel spécifique à tenir. Ça veut dire que seul le présent, bien entendu, nous requiert, que quand on est historien, la question de Michel Foucault, qui est la question essentielle, c'est-à-dire en quoi hier diverge d'aujourd'hui, doit nous tenir du matin au soir. Parce que, précisément, ce qui nous intéresse dans hier, c'est ce qui fait que ce n'est pas aujourd'hui. Et que aujourd'hui doit, pour être intensément compris, se préoccuper d'hier. Et voilà pourquoi Michel Foucault plongeait dans des bibliothèques patristiques, classiques ou grecques, parce qu'il voulait comprendre le monde dans lequel il vivait.
Nous allons écouter Michel Foucault, c'était au micro de Roger Chartier, à propos de l'histoire de l'espace, la manière dont on organise l'espace. Il va y répondre d'un point de vue philosophique, en y ajoutant encore une fois la notion de vérité. Archives du 23 mai 1977, les lundis de l'histoire.
Ce problème de l'histoire de l'espace est un problème qui, je crois, est d'introduction relativement récente dans nos préoccupations. Je crois que c'est une chose qui est assez importante, ce fait que depuis maintenant une dizaine d'années, les problèmes de l'espace sont apparus comme méritant l'attention, plus qu'une histoire de la conscience et une histoire de la manière dont on a perçu le temps, l'histoire de la manière dont on organise l'espace apparue, je crois, en liaison avec tous les problèmes de pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'analyse des mécanismes de pouvoir est devenue une tâche historique possible et souhaitable, je crois qu'on n'a pas pu éviter ce problème de l'espace. Bon, alors la seconde remarque que je voudrais faire, c'est aussi que moi, personnellement, je ne suis pas historien, mais pas historien du tout. Et que mon problème, c'est malgré tout un problème de philosophe. Bon, la philosophie, qu'est-ce que c'est? Sinon, en gros, poser la question de ce que c'est que la vérité. Non pas la question quelles sont les choses qui sont vraies et quelles sont les choses qui sont fausses, mais qu'est-ce que c'est que ça, finalement? Poser la question de la vérité. Comment se fait-il que dans une civilisation comme la nôtre, tout puisse s'ordonner, ou un nombre en tout cas considérable de choses, puisse s'ordonner à ce grand partage du vrai et du faux? Alors, c'est ce problème philosophique que j'essaie d'aborder, non pas avec les instruments de la logique, comme on l'a fait longtemps, non pas avec les instruments de la psychologie, comme ça s'est fait également, ou de l'analyse de la conscience, mais avec les instruments de l'histoire. Quelle a été la trajectoire de la question de la vérité dans notre société? Alors, c'est là où, si vous voulez, les problèmes de l'espace et des techniques de pouvoir, je les rencontre de mon côté, car il m'a semblé que, non pas dans sa totalité, bien sûr, mais pour une part non négligeable, ce grand partage du vrai et du faux, cette grande organisation, ce grand impératif de la vérité, au fond, était sans doute lié à la manière dont le pouvoir s'exerçait dans notre société. D'où, si vous voulez, l'idée de regarder concrètement quelles sont les techniques que notre société se donne pour exercer le pouvoir et comment, à partir de là, à quel endroit, en quel lieu, en quel point d'articulation précisément, la question de la vérité peut jouer. En gros, comment le pouvoir est créateur de savoir. Voilà. Alors, d'où, si vous voulez, cette idée, le savoir médical dont on a essayé à plusieurs reprises de faire l'histoire, si on essayait de le suivre, non pas tellement dans la série des connaissances acquises, ni même dans la conscience plus ou moins scientifique ou plus ou moins magique des médecins, ça s'est développé, mais voyons comment une société s'est-elle donnée des prises techniques sur, même pas les maladies, sur les malades. Qu'est-ce qu'elle a fait des malades? Comment on s'est emparé des corps malades? Qu'est-ce qu'on en a fait? Comment on les a distribués? Comment on les a enfermés ou surveillés, etc. Et à partir de là, comment le savoir médical moderne a pu se constituer? D'où l'idée donc centrale de ce dossier, qui sera donc partielle, si vous voulez, quant au soubassement historique généraux de ces techniques concernant la maladie, et qui visera surtout la manière dont ces techniques de pouvoir mises en œuvre à propos des malades a pu produire le savoir, ou du savoir moderne sur la maladie.
Je voudrais évoquer avec vous, Frédéric Gros, le dernier séminaire de Michel Foucault, parce que je crois qu'il jette une lumière rétrospective sur la totalité de l'œuvre.
Le dernier séminaire de Foucault qui porte sur les cyniques, qui porte sur la philosophie grecque, contient en effet, je trouve que c'est celui qui montre à quel point l'enracinement Foucault reste et demeure un enracinement grec. Quand je dis un enracinement grec, je veux dire que la question posée par la philosophie n'est pas directement la question qu'en est-il de la connaissance du monde, mais qu'en est-il des possibilités de transformation de notre existence, des autres et du monde. Et cette attention précisément aux capacités de la philosophie à nous transformer, à transformer les autres, je trouve que c'est ça qui va aller chercher précisément chez les cyniques, quitte même à considérer comme presque rien, mettons, tout ce qui relève de l'écriture, et à poser la question qui est la question de la vraie vie.
Et de la vérité.
Oui, de la vérité en tant qu'elle s'adresse directement à nos existences, c'est-à-dire une vérité qui n'est pas là seulement pour nous donner un statut. Ce que Foucault va appeler vérité de plus en plus, c'est cette intensité qui traverse nos existences. Dès qu'il y a de l'intensité, dès qu'il y a du bouger dans nos vies, dès qu'il y a une fragilisation même de nos certitudes, c'est quelque chose comme un courant de vérité qui passe.
Alors ce dernier séminaire, il l'a donné après avoir été obligé d'en annuler certains parce qu'il était fatigué, même épuisé. Il a cependant tenu à venir prononcer ce dernier séminaire. Daniel Defer, il est peut-être opportun de parler des circonstances et des raisons de la mort de Michel Foucault, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de légendes. Pendant longtemps, on a dit Michel Foucault, l'entourage de Michel Foucault, la famille de Michel Foucault n'a pas voulu dire la vérité. Mais en fait, la vérité a été dite sur les circonstances de la mort de Michel Foucault, mais elle n'a pas été entendue.
Oui, mais ça c'est le propre. L'œuvre de Michel Foucault et sa mort, d'une certaine manière, ont été claires et obscures. Non entendu, comme vous le dites. C'est vrai que nous avons fait un communiqué. Sa famille, puisque en France, normalement, les causes de décès ne sont pas publiques. Ça fait partie du secret médical, ce qui est bien normal. Mais comme on sentait qu'il y avait une espèce de montée de polémique, c'est vrai qu'il n'a pas parlé lui-même. Jean-Paul Aron lui a reproché dans un fameux entretien, mais 2 ans plus tard. Mais Foucault est mort en 3 semaines. Il n'est pas. Il est entré à l'hôpital, il n'en est pas sorti. Jean-Paul Aron a été malade plusieurs années. Donc, ce n'était pas du tout la même histoire. Et alors, au moment de sa mort, on commençait à avoir des rumeurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, le sida était une maladie terriblement tue, et même par le corps médical. Enfin, le corps médical n'a jamais osé aborder avec lui, même son médecin, 2 jours avant sa mort, à qui je dis « Mais enfin, est-ce que c'est le sida ?» me dit Daniel, si c'était ça, je vous aurais examiné. Ce qui m'a donné une confiance absolue. Et quand j'ai rapporté ça à Foucault, j'ai senti, pour lui, l'effroi, et ça a raté sa mort, je le sais. Donc, sa famille et les médecins ont fait un communiqué qui décrivait parfaitement la maladie. Le mot n'était pas dit, et pendant des mois, des années, et même, je me rappelle, même Serge Danet, dans un article de Libération, disant qu'il y avait eu un silence. Et j'ai créé l'association AIDE, non pas en utilisant son nom, pour justement affronter cette réalité que nous n'avions pas eu le temps d'affronter ensemble. Et je me rappelle que la mère de Michel Foucault m'a dit, nous écoutions le professeur Gallo, l'autre supposé découvreur du virus aux États-Unis. Nous écoutions ensemble le professeur Gallo à la télévision. Elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Ce que vous avez fait pour les malades, c'est bien. Et pour lui, il fallait le faire. » Or, la famille redoutait un peu que le nom soit prononcé à l'égard de sa mère qui n'avait aucune illusion et qui savait parfaitement de quoi il était mort, mais qui, comme tout le monde, n'aimait pas en parler.
Merci à tous nos intervenants durant cette semaine spéciale consacrée à Michel Foucault. À l'occasion de la publication en 2 volumes des œuvres de Michel Foucault dans la Pléiade, organisée et coordonnée par Frédéric Gros. Merci à nos 3 invités de ce soir, Patrick Boucheron. Je rappelle que son dernier ouvrage est co-signé avec Mathieu Riboulet qui s'intitule « Prendre date chez Verdier ». Merci à Daniel Defer qui a publié un très beau livre, son histoire et son itinéraire qui s'intitule « Une vie politique » aux éditions du Seuil. Quant aux publications de Michel Foucault, elles sont disponibles en livre de poche et la plupart des écrits vont continuer à être publiés. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, à Guillaume Leduc, Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.